Un grand-père, les études spatiales, un rêve, c'est la règle de trois de Francis Rocard. Si tout le monde connaît son père, l'ex-premier ministre Michel Rocard, son grand-père, Yves, lui, est injustement oublié. Car sa carrière scientifique fut remarquable. Yves Rocard a activement participé à l'élaboration du programme atomique français au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Directeur du laboratoire de physique de l'École normale supérieure, il a mené des travaux dans des domaines très différents. De la sismologie, il existe un sismomètre de Rocard, à la vitesse critique des avions en passant par la solidité du pont de Tancarville.
Les techniciens de nos professions n'étaient pas les tremblants à l'idée que si on leur demandait de faire un pont comme Tancarville, ils pourraient se casser. Alors à ce moment-là, on a fait appel à moi.
Né avec un tel héritage il y a 63 ans, Francis Rocard se passionne très vite pour les sciences physiques. C'était naturel chez moi, dit-il. Il se tourne vers l'astrophysique, car elle englobe ses sujets préférés, les milieux froids ou chauds, les milieux denses, le vide. Grâce à cet attrait pour la science, il échange beaucoup avec son grand-père. Les 10 dernières années de sa vie, nous étions très proches, précise-t-il. En 1989, Francis Rocard entre au Centre National d'Études Spatiales, où il dirige les programmes d'exploration planétaire. En 2018, par exemple, après 15 ans de recherche et de développement, il envoie sur Mars et en association avec la NASA un sismographe conçu et fabriqué en France.
La mission InSight, elle s'intéresse surtout à l'intérieur de Mars. Et ça revient à étudier finalement l'histoire de sa formation et de son évolution.
Depuis son installation sur Mars il y a un an et demi, l'instrument a déjà enregistré de nombreuses secousses, ce qui permet d'en savoir plus sur la composition de la planète. Son rêve désormais, c'est un retour d'échantillons martiens, condition indispensable pour répondre à la grande question, la vie a-t-elle existé sur la planète rouge ? Des détails concernant cette mission ont été livrés il y a peu. L'espoir de ramener des roches martiennes sur Terre pourrait se concrétiser en 2030.
Et le reste du temps, Francis Rocard jardine, avec passion aussi, paraît-il.
Vous êtes très bien renseigné, oui.
Oui, Gaël Le Gray est très bien renseigné. Vous êtes mobilisé par une mission qui s'appelle ExoMars, dont le but était de déposer un rover européen, un petit engin mobile avec des roulettes sur la planète Mars. Ça a été repoussé à 2022, cette mission. Pour quelles raisons?
Oui, diverses raisons. Le Covid est une des raisons. Parce que dans les phases terminales, il faut beaucoup de monde autour de l'objet et donc la distanciation sociale n'est pas respectée. Et à un moment, il faut. Il y a des opérations que vous ne pouvez pas faire.
C'est ça.
Et comme le calendrier était très très tendu, et ben.
2022.
Voilà, on reporte de 2 ans. C'est toujours 2 ans sur Mars.
Toujours 2 ans. Et pourquoi 2 ans?
Parce que tous
c'est
les 2 ans.
C'est la longueur du voyage?
L'énergie pour aller vers Mars est minimum, mais il faut attendre 2 ans.
Quel est le but? Qu'est-ce que ce rover est censé trouver? L'origine de la vie? L'origine de la vie sur Terre? L'origine de la vie de l'univers?
Alors, savoir si de la vie ancienne, c'est-à-dire il y a 4 milliards d'années, a existé quand Mars était chaud et humide et où l'eau coulait en abondance. Mm-hmm. On ne cherche pas la vie actuelle, on cherche plutôt la vie très ancienne, donc les traces de vie, biosignatures. C'est-à-dire des preuves indirectes que telle molécule est d'origine biologique et non pas minérale, par exemple.
Mais ça veut dire, vous dites, on ne cherche pas la vie actuelle. Ça veut dire qu'il n'y en a pas ou qu'il peut encore y en avoir une, parce que c'est bien sûr le mythe du martien.
Alors, il n'y a pas de martien, ça je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de martien. Je crois qu'on les verrait. Mais non, la vie actuelle n'est pas complètement éliminée. Mm-hmm. Simplement, on a beaucoup de mal à la chercher parce que on pense que si elle existe, c'est en grande profondeur.
Mm. Il faut faire de l'extraction.
Voilà, parce que ce n'est qu'à 2-3 km de profondeur que la glace, et on sait qu'il y a plein de glace dans le sous-sol, passe naturellement en phase liquide. Or, pour avoir de la vie, il faut de l'eau liquide. Mmh. Et donc si de la vie actuelle, en surface, il y a des problèmes de rayonnement, l'absence de liquide, froid, il n'y a pas de vie, ça on le sait depuis 1976, ça fait longtemps qu'on le sait et on a fait une croix dessus. Mais en profondeur peut-être, mais on est très très loin de pouvoir creuser, peut-être avec des hommes, on pourrait mettre un derrick et puis creuser.
Comme au Texas. C'est un projet européen, c'est important par rapport à la course à Mars, qui est la course américaine. Mars est devenu une nouvelle frontière pour les États-Unis.
Mars est une nouvelle frontière pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un consensus, notamment en France. Les planétologues sont désireux de Mars parce qu'il y a cette question du vivant qui est derrière. Voilà, c'est très simple. Et ExoMars, c'est la première fois que l'Europe va se poser au sol de Mars. Donc on espère que ça va marcher. Mais pour des raisons financières, on est en coopération avec la Russie. Et que la Russie, c'est pas parfait, quoi. On s'est rendu compte que ce qu'ils devaient faire sur ExoMars, il y avait des petits problèmes par-ci, des petits problèmes par-là. Et c'est tout ça qui, le Covid aidant, a fait qu'on
a fait que c'est reporté à 2022.
On devait lancer cet été.
Vous deviez lancer cet été. Donc c'est reporté à 2022. Et pendant ce temps-là, Elon Musk...
Ouais.
Nadia, on en parle avec vous.
Oui, on a évidemment envie de vous entendre là-dessus. C'est donc cet événement spatial qui est presque un peu banal, mais qui a bénéficié d'une attention médiatique démesurée. Ça s'est passé donc dimanche dernier, quand deux astronautes ont rejoint une station orbitale. Pour la première fois depuis 9 ans, ce sont donc les États-Unis eux-mêmes qui ont lancé la fusée sans l'aide des Russes. Et surtout, il s'agit, on le sait, du premier vol habité opéré par une société privée, le fameux SpaceX. La fameuse SpaceX est l'une des entreprises du milliardaire iconoclaste Elon Musk, qui a aussi créé les voitures électrique Tesla. On peut rappeler que cette personne, ce monsieur, possède un sens assez personnel de la provocation. Vous vous en souvenez, c'était en 2006, il avait déclaré devant les pontes de l'industrie spatiale « Je m'appelle Elon Musk et dans 5 ans, vous êtes tous morts ». Et délicatesse toujours, il a longtemps surnommé son lanceur le plus lourd « My big fucking rocket », on n'a pas besoin de traduire. Et avec elle, il veut envoyer des hommes sur Mars et coloniser Mars, ce sont ses mots. Mars qui surnomme d'ailleurs le plan B. Comment est-ce que vous percevez cette rhétorique, il n'est pas le seul d'ailleurs à l'avoir, de planète de secours, une fois qu'on a bien saccagé celle-ci?
Oui, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Personnellement, je trouve que c'est... Je ne suis pas du tout dans la lignée d'Elon Musk, et la NASA non plus d'ailleurs. Elon Musk, il dit ce qu'il veut, mais non, le plan B n'est pas du tout sain.
Ce qui vous dérange, c'est l'utilitarisme?
Non, ce qui me dérange, c'est le message que ça diffuse. Ça veut dire continuer à saloper la planète et après, les happy few, les plus riches, partiront avec moi sur Mars. C'est choquant, très choquant.
L'optique de poser un homme en 2050 sur Mars, c'est une hypothèse viable?
C'est une hypothèse viable, absolument. De toute façon, à 30 ans, on peut toujours dire que c'est viable.
Oui, ça n'engage pas beaucoup.
Ça n'engage pas beaucoup. Oui. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on repousse de 30 ans, c'est toujours viable. Mais c'est l'hypothèse actuelle, notamment par les Américains. Or, qui étudie sérieusement, c'est la question. Il n'y a qu'un pays qui l'étudie, ce sont les États-Unis.
Et qui ont le budget, et qui ont les moyens.
Et qui ont potentiellement le budget. Ils peuvent, si ça coûte 300 ou 400 milliards sur 30 ans, ils ont cet argent.
Et qui peuvent résoudre la question de l'eau, par exemple, de produire de l'eau, lorsqu'ils vont poser des hommes sur la planète.
Extraire. Il en faudra, oui. Et la question va se poser très vite sur la Lune.
Ouais.
Au pôle sud de la Lune. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un attrait fort pour aller vers le pôle sud de la Lune. Alors le pôle nord, c'est pareil, mais il se trouve que le pôle sud est un peu plus intéressant. Est-ce qu'on va pouvoir extraire l'eau? C'est un gros point d'interrogation. Et si on arrive à l'extraire, après on va l'utiliser pour les hommes, parce que si c'est moins cher de la prendre sur la Lune pour aller vers Mars, plutôt que de la mettre depuis la Terre, ben voilà, vous avez gagné de l'argent. Après, vous pouvez faire mieux que ça. Vous pouvez casser la molécule d'eau et faire de l'hydrogène, de l'oxygène, vous rajoutez du carbone et vous faites de l'oxygène et du méthane.
Ça a l'air simple.
Qu'est-ce qu'on fait avec de l'oxygène et du méthane?
Qu'est-ce qu'on fait?
Des carburants de fusée. Et à ce moment-là, vous faites le plein sur la fameuse station en orbite lunaire. Et depuis cette station, pas depuis la surface, mais depuis cette station, vous pouvez aller vers Mars. Ça tient la route sur le papier.
Sur le papier, précise Francis Rocard, ça tient la route.
En mécanique spatiale, on peut le faire. Et si on peut faire le plein, Elon Musk d'ailleurs en parle souvent, ce qu'il appelle le refueling en anglais, c'est-à-dire je fais le plein là-haut, eh bien on peut gagner de la masse. Si vous gagnez de la masse, vous gagnez de l'argent.
Hélas, l'argent sera le mot de la fin, c'est dommage dans cet entretien, mais bon, il y a quand même une dimension poétique et vous l'avez fait affleurer à travers cet entretien. Merci.